en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La conscience humaine, dont la véritable nature demeure encore inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de colloque organisée par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces réflexions peuvent être inhérentes à plusieurs domaines qui vont de la science à la philosophie en passant par la théologie. Canal Academy vous propose d'écouter ce deuxième colloque portant sur les états modifiés de conscience. 6 conférences au total sont retransmises sur notre site. Retrouvez dès maintenant une intervention du père Daniel Holz, membre de la Congrégation pour la cause des saints. Son propos est intitulé « Les états modifiés de conscience et la cause des saints ».
Merci, monsieur. Il est nécessaire, je pense, de faire un rapide prologue en raison du caractère très particulier des causes des saints qui fait que ce domaine, je le suppose, ne vous est pas très familier. Il reste, d'une manière générale, une sorte d'hortus conclusus. Les causes des saints ont pour but de déterminer avec certitude, évidemment une certitude morale, mais enfin avec certitude, qu'un fidèle défunt a vécu à un tel degré de sainteté qu'il peut être connu officiellement saint par l'autorité suprême, par le pape, et proposé à la vénération et à l'imitation des chrétiens. Ce qui suscite immédiatement une autre question, qu'est-ce que la sainteté ? En deux mots, nous pouvons dire que la sainteté, c'est l'union à Dieu. Une union qui n'est pas le résultat des efforts de l'homme, mais qui se réalise par le don que Dieu lui fait de la grâce, qui est dite pour ce motif, grâce sanctifiante. Mais la grâce, ça ne se voit pas. Il est même deux fois défini par le Concile de Trente, qu'on ne peut pas savoir avec une certitude absolue, une certitude apodictique, on ne peut pas savoir si on est ou non en état de grâce. On peut le conjecturer. Si donc on ne peut pas le savoir pour soi, comment peut-on le savoir pour les autres ? Alors, de la même façon qu'on peut le conjecturer pour soi, avec une certaine certitude, de la même façon on peut le conjecturer pour les autres. Sur la base de quoi ? Sur la base de leurs actes et de leur comportement. En effet, la grâce sanctifiante, ou grâce habituelle, est la source dans l'âme des vertus infuses, hein, pas des vertus acquises, des vertus infuses et des dons du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi grâce des vertus et des dons. Ces vertus et ces dons ne se voient pas non plus, parce que ce sont des dispositions. Mais ils nous sont perceptibles par leurs actes. Habituellement, quand je me trouve dans une situation périlleuse, je réagis avec courage, ça veut dire que j'ai la vertu de courage, ou la vertu de force, disons. C'est pourquoi les enquêtes que l'on mène en vue de la béatification et de la canonisation portent sur la possibilité de reconnaître chez les candidats, que nous appelons serviteurs de Dieu, donc chez les serviteurs de Dieu, l'existence de ces vertus, qui sont, je le rappelle, les vertus infuses, et au degré héroïque. Alors, degré héroïque, ça veut dire, en fait, degré nettement supérieur à celui qu'on reconnaît chez les bons chrétiens. Alors, il y a aussi les enquêtes sur le martyr. Alors là, c'est quelque chose que je laisse de côté, mais ce n'est pas extérieur aux vertus. Le martyr est une manifestation de la vertu de force. Pour différents motifs, on enquête guère sur les dons du Saint-Esprit, qui pourtant offriraient un certain intérêt pour le thème qui nous occupe. On n'enquête pas sur les dons du Saint-Esprit parce que, d'un côté, certains sont difficiles à distinguer des gratiae gratis date, dont je vais parler tout à l'heure, et d'un autre côté, il n'y a pas unanimité dans la théologie sur la nature des dons du Saint-Esprit. Depuis le XIIe siècle, on en discute. Et donc, on laisse prudemment de côté ces choses qui ne sont pas généralement admises. Bon. Et ils offriraient un intérêt, les dons du Saint-Esprit, parce que, au moins suivant la doctrine de saint Thomas, ils comportent ce qu'on pourrait appeler une modification de l'état de conscience, puisqu'il s'agit de dispositions stables, d'habitus, exis, chez Aristote, à se laisser guider par les inspirations du Saint-Esprit, sans qu'intervienne aucun jugement de la raison. Si quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, quand il voit quelqu'un, il est capable de dire quelle est sa disposition, s'il est sincère, si ceci, cela. Sans qu'il sache pourquoi, il est capable de dire ça. N'est-ce pas ? C'est le don du Saint-Esprit qui le rend apte à accueillir l'inspiration que sur le moment lui donne le Saint-Esprit. Je dois encore ajouter à ce bref prologue quelques indications sur les références normatives ou quasi-normatives qui gouvernent la pratique des causes des saints, en deçà des textes purement juridiques. Les procédures, en effet, ont beaucoup évolué au cours de l'histoire et de façon particulièrement rapide et radicale au cours des années qui ont suivi le Concile de Vatican II. Mais les maximes qui président à ces procédures sont demeurées inchangées, peu s'en faut, au moins depuis le XVIIIe siècle, ou disons ont été vraiment codifiées de manière définitive au XVIIIe siècle, par Prospero Lambertini, qui fut ensuite le pape Benoît XIV. Il a été pendant plus de 10 ans promoteur de la foi à la Congrégation des Rites, qui à l'époque s'occupait des canonisations, et il a écrit un énorme ouvrage qui s'intitule « De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizzazione ». Dont la première édition a paru de 1734 à 1738 à Bologne, ville dont il était alors archevêque, dont il était originaire, et la troisième édition, dite Editio Typica, apparue à Rome, alors qu'il était pape, à partir de 1747. La théologie qui est mise en œuvre est celle de saint Thomas. Lambertini, enfin Benoît XIV, a dit un jour, il est vrai, en parlant devant un chapitre général des Dominicains, a dit un jour que tout ce qu'il avait écrit de bien et de vrai, il le devait à saint Thomas. Voilà. Et avec, évidemment, cette théologie de saint Thomas, on est au XVIIIe siècle, avec des influences de la scolastique postérieure, et aussi, comme je l'ai dit un peu à propos des données du Saint-Esprit, le souci d'éviter de s'opposer visiblement aux autres courants théologiques. Enfin, mais c'est une évidence, mais il faut peut-être le souligner, nous avons la prétention, en fait, d'avoir déjà les réponses aux questions qu'a posées mon prédécesseur. Alors, pas les réponses, justement, dans chaque cas concret, mais les réponses théoriques, puisque nous faisons intervenir dans ce que, dans nos procédures, l'action de Dieu, l'action du diable, l'action des anges, et puis évidemment aussi l'action humaine. Donc, devant parler des états modifiés de conscience et des causes des saints, je dois me référer principalement à l'ouvrage de Benoît XIV, où le pape examine ce qui correspond plus ou moins à l'expression « état modifié de conscience », qui évidemment n'est pas de son vocabulaire, et même, je dirais, pas de sa métaphysique, mais quand vous dites, de sa gnoséologie, de la psychologie. Évidemment, saint Thomas n'aurait pas dit ça. Dans les derniers chapitres du livre 3, il y prend en considération d'abord ce que la théologie appelle, d'une manière qui d'ailleurs n'est pas très heureuse, mais qu'enfin appelle les « gratiae gratis date », les grâces données gratuitement. C'est heureux parce que toutes les grâces sont données gratuitement, même la grâce sanctifiante, mais enfin bon, c'est en vue de la fin qu'on dit gratuitement. Et d'autres manifestations analogues, on y joint. Alors cet examen couvre 111 pages, in quarto, imprimées en tout petit caractère, c'est du corps 8, et sur 2 colonnes, et donc hors de question que je m'essaie même à résumer les expositions du pape. Je me limiterai à quelques observations générales. Les manifestations extraordinaires, comme sont la prophétie, le don des miracles, les visions ou les révélations, comme d'ailleurs, mais ça, c'est les stigmates ou la bilocation, ces choses-là, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ne sont pas d'abord des avantages, mais plutôt des obstacles pour une cause de canonisation. Ce ne sont pas des avantages, parce que les gratiae gratis date, que les théologiens modernes appellent les charismes, mais là aussi ce n'est pas très juste, mais quand même bon, les gratiae gratis date ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante. et que ce qui fait la sainteté, comme je l'ai rappelé au début, c'est la grâce sanctifiante. Elles sont données non pas pour la sanctification personnelle de la personne qui en bénéficie, mais normalement pour l'utilité du prochain. L'illustration traditionnelle de ce point chez les médiévaux, et même avant, on commence même avec Saint Grégoire, et même avant, est Balaam. Balaam, qui était, si vous vous rappelez, Balaam et son ânesse, qui était prophète des démons, et qui a été cependant inspiré par Dieu pour bénir Israël. Saint Thomas commente, « Dieu se sert même des méchants pour le bien des bons. Que quelqu'un fasse des miracles, ou ait le don de prophétie, ne sert donc pas à prouver sa sainteté. Bien qu'il soit vrai que généralement, Dieu concède les gratiae gratis date à qui vit déjà de la grâce habituelle, de la grâce sanctifiante. Dans la pratique, ces manifestations, comme je l'ai dit, constituent bien plutôt des obstacles pour les causes, des difficultés, car il faut prouver qu'en réalité, ce ne sont ni des supercheries, ni des illusions, ni des œuvres du diable. Il peut aussi se faire que ce que l'on présente comme manifestation d'origine surnaturelle soit tout à fait explicable sans sortir de l'ordre naturel. Ça peut être des illusions, comme je l'ai dit. Si quelqu'un voit des éléphants roses, généralement c'est plutôt attribuable au delirium tremens qu'à une inspiration surnaturelle. Alors il est certain que tous ces phénomènes que présentent parfois les serviteurs de Dieu peuvent se cacher ces supercheries, illusions, etc., maladies mentales, enfin bon. Pour ces raisons, quand nous nous trouvons en face de phénomènes de ce genre, nous demandons en premier lieu, souvent, si les phénomènes, nous nous demandons, peuvent avoir une explication d'ordre naturel. Et pour ce faire, nous faisons appel, souvent, alors à des experts, à des scientifiques, en cherchant d'obtenir des approches différentes. Alors on demandera à un psychologue ou à même à un psychanalyste d'un côté, puis à un neurologue de l'autre côté, qui généralement ont des manières tout à fait différentes de voir les choses, et ainsi de suite. Nous ne manquons pas non plus de moyens qui nous permettent, sinon de diagnostiquer de façon précise l'origine des phénomènes que l'on constate, tout au moins de reconnaître ou d'exclure leur origine surnaturelle. Le premier critère est la considération globale de la vie du serviteur de Dieu. S'il ressort des enquêtes effectuées qu'il a exercé de façon constante et soutenue les vertus chrétiennes, on peut avoir un préjugé favorable quant à l'authenticité surnaturelle des phénomènes extraordinaires. Il faut ensuite tenter de déterminer si, par exemple, les connaissances étonnantes, pour prendre la gratia gratis data de science, les connaissances étonnantes que quelqu'un manifeste pourraient lui avoir été suggérées par le démon. Parlant de cette grâce, la gratia gratis data de la science, Benoît XIV donne les critères suivants. Je cite. D'où provient l'habileté et la connaissance de celui qui est doué de science, on peut le reconnaître, premièrement par sa conduite et ses mœurs, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, par la qualité de l'habitus de science, lui-même. En effet, si ce qu'il sait n'est pas ordonné au culte divin, à la croissance de la foi chrétienne ou à l'utilité du prochain, il sera permis de soupçonner que cela vient du démon. En troisième lieu, par l'usage de cette science. Si en effet elle a pour fin l'outrage de Dieu, le dommage du prochain, le profit temporel, la faveur populaire, la grâce des princes, elle devra être tout entière attribuée au diable comme à son auteur. Enfin, si celui qui professe la science n'a pas celle-ci en son pouvoir, mais seulement à jour ou heure fixe, et après avoir préalablement accompli des cérémonies et des rites superstitieux déterminés, et aussi si en dehors du temps où il parle avec science pour enseigner les autres, il ne se rappelle absolument plus ce qu'il a dit ou enseigné, ce sont là des signes de malice. Ces critères doivent être appliqués, mutatis mutandis, aux autres manifestations extraordinaires, en particulier aux autres gratiae gratis date. Il faut s'arrêter cependant quelque peu à examiner la prophétie les extases, les visions et les révélations. La prophétie et les révélations, c'est très voisin, mais enfin, prenons l'ordre de Benoît XIV. La prophétie est une gratia gratis data par laquelle le sujet connaît des choses lointaines et éloignées de la connaissance humaine, et en particulier des événements futurs, mais pas seulement des événements futurs. Les exemples qu'a cités monsieur mon prédécesseur entreraient, sur le Titanic ou ces choses-là, entreraient dans la prophétie. Pour ce qui nous regarde, Benoît XIV, je résume vraiment à l'extrême, enseigne que pour s'assurer de l'authenticité surnaturelle de la prophétie, il faut d'abord, après s'être assuré de la vie chrétienne du prophète, examiner si ce qu'il affirme est conforme à la vérité et à la piété chrétienne. En second lieu, il faut s'assurer que les prophéties regardent bien des choses qui échappent aux possibilités de la connaissance naturelle. Entre parenthèses, Benoît XIV insiste beaucoup sur ce point. C'est un homme des Lumières. C'est un bon chrétien, mais c'est un homme des Lumières, Benoît XIV. Donc, il est devant toutes les choses qui ne lui semblent pas très rationnelles et très, très méfiant. En troisième lieu, on doit vérifier, quand c'est possible, que la réalité correspond bien avec ce qu'avait annoncé le prophète. Voltaire lui avait dédié un de ses livres. L'extase consiste en ce que l'homme sorte de lui-même. Cela peut se produire, selon saint Thomas, de deux façons. Selon la puissance appréhensive, quand l'homme est placé en dehors de sa connaissance propre, soit en étant élevé à une connaissance qui dépasse les sens et la raison, soit en étant abaissé, extase négative si on peut dire, en dessous de sa connaissance propre, comme dans la folie furieuse ou l'aliénation mentale. Donc ça, c'est suivant la puissance appréhensive. Selon la puissance appétitive, quand le désir de quelque chose fait qu'il ne voit plus rien d'autre, que le fait sortir de lui-même. L'extase peut être naturelle, démoniaque ou divine. Benoît XIV donne comme exemple d'extase naturelle saint Thomas qui, invité à la table du roi Saint-Louis, oubliant totalement où il se trouve, donne un grand coup de poing sur la table et s'écrie « Voilà qui en finit avec l'hérésie des manichéens !» Parce qu'évidemment, il avait ça dans la tête. Et... L'extase démoniaque se réalise, alors là, la physiologie de l'époque, se réalise quand le démon lit les sens, obstrue les canaux par lesquels les esprits animaux passent du cerveau au sens externe et excite dans l'imagination et dans l'esprit la pensée véhémente d'un objet ou d'une affaire. Et il y a extase divine quand Dieu, par soi-même ou par l'intermédiaire d'un bon ange, ravit un homme et l'aliène de ses sens pour qu'il contemple plus librement les réalités divines. Alors, quels sont les signes qui, selon Benoît XIV, et encore aujourd'hui selon nous, qui évidemment dépendent de la connaissance qu'il avait à l'époque, mais qui ne sont pas tellement obsolètes, permettent de distinguer les unes des autres ces trois sortes d'extase. L'extase naturelle. Alors, il ne faut pas tenir compte, dit-il, dans les causes des saints, des extases dans lesquelles ceux qui en sont affectés perdent complètement l'usage des sens externes et semblent comme morts. Nous disons que ce sont là les signes d'une extase naturelle, signe d'une maladie qui peut causer l'extase. De même, si l'extase se produit à heure fixe, si l'extatique avec le temps tombe dans la paralysie ou l'apoplexie ou une autre maladie de ce genre, si après l'extase se manifeste une certaine fatigue, un engourdissement des membres, un obscurcissement de l'esprit et de l'intellect, l'oubli du passé, la pâleur et l'ividité de la face, la tristesse de l'âme, ce sont là les signes d'une extase naturelle. De même, si quelqu'un devient extatique alors qu'il est en train de désirer quelque chose de terrestre. Et enfin, si quelqu'un est aliéné des sens et devient extatique alors qu'il écoute de la musique. Pour l'extase diabolique, les critères sont les suivants. Si un homme de mauvaise vie ou en train de commettre un péché tombe en extase. Si l'extase se réalise avec une très grande distorsion des membres et des mouvements désordonnés du corps. Si l'extatique entre en extase chaque fois qu'il le veut. S'il sort de l'extase quand il veut. Si celui qui est en extase parle avec un esprit confus, comme mu par un autre, et comme si un autre parlait à travers lui. Si après l'extase, il ne se rappelle pas ce qu'il a dit, et n'est pas capable de le répéter. Si quelqu'un entre souvent en extase dans les lieux publics et là où il y a une plus grande foule. Enfin, voici des signes évidents de l'extase démoniaque. Si dans l'extase est conseillé un mal, ou s'il est conseillé un bien, mais non pour une fin bonne, ou si après l'extatique reste troublé. L'extase divine, les signes de l'extase divine sont avant tout les mœurs de l'extatique. L'extase divine se manifeste avec le maintien le plus correct de l'homme tout entier, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. L'extatique ne parle dans l'extase divine que de choses célestes qui poussent les assistants à l'amour de Dieu. Revenu à soi, il se montre humble et comme honteux. Il est rempli d'une joie céleste, il a la face joyeuse et le cœur paisible. Il ne se réjouit aucunement de la présence des spectateurs, craignant qu'à cause d'elle ne se forme une réputation de sainteté. Il est ravi en extase, généralement alors qu'il prie ou qu'il entend la messe ou après la réception de l'Eucharistie ou lorsqu'il entend parler de Dieu ou du paradis. De plus, les extases divines ne sont pas prolongées, mais sont souvent brèves. Les visions et les apparitions, que je laisse un peu de côté, sont jugées selon des critères analogues à ceux que j'ai exposés après Benoît XIV à propos des extases. Il y a les visions et apparitions d'ordre naturel qui peuvent être dues à l'alcool, aux stupéfiants, aux dérangements mentaux, et ajoute aussi le pape à la vieillesse, mais qui ne posent pas de problème particulier. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est le rêve. La Sainte Écriture nous prouve que Dieu, parfois, a voulu communiquer, avec Saint Joseph par exemple, par le moyen du rêve. Alors, comment distinguer un rêve qui vient vraiment de Dieu d'un rêve qui vient simplement de notre imagination, etc. Le critère le plus utilisé à propos des visions et des apparitions est celui de l'état dans lequel reste le visionnaire après. Alors évidemment, les visions au début, en général, troublent. Mais si le visionnaire, à la fin de la vision, est pacifié, heureux, alors on peut considérer qu'il y a des chances que ce soit une vision divine. Si au contraire, il reste troublé, alors là, c'est un des signes que c'est d'origine diabolique. Donc, pour nos causes, on ne doit tenir aucun compte des visions naturelles. On ne doit pas normalement y trouver des visions démoniaques, à moins que ce soit des visions qui obsèdent le serviteur de Dieu. C'est un autre problème qu'il faudrait examiner, mais que je ne peux pas. Et donc, seules les visions d'origine surnaturelle nous intéressent. En dernier lieu, les révélations, qui souvent accompagnent les visions et les apparitions. La première chose à souligner, c'est la distinction entre la révélation avec un grand R et les révélations que Dieu peut faire à telle ou telle personne. Comme l'enseigne saint Thomas, notre foi est fondée sur la révélation faite aux apôtres et aux prophètes qui écrivirent les livres canoniques et non sur la révélation qui éventuellement aurait pu être faite aux autres docteurs. Ces révélations sont privées, elles ne sont pas objet de foi théologale, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas être authentiques, mais ce n'est pas le même genre d'adhésion qu'elles réclament. Et quand on béatifie ou canonise quelqu'un qui a eu des visions ou des révélations, on n'entend en aucune façon canoniser les visions ou les révélations. Alors là aussi, il y a tout un tas d'autres critères que je dois sauter. Il faut noter cependant ceci, qui vaut aussi pour la prophétie, c'est que dans ce que le serviteur de Dieu présente de bonne foi comme révélé, peuvent se mêler, et effectivement souvent se mêlent, des affirmations qui sont en fait des affirmations qu'il fait de son propre fond. Une révélation n'est pas nécessairement la dictée avec les mots, etc. Donc c'est une expérience que fait le voyant, et ensuite il l'exprime dans ses concepts, dans ses mots. Saint Thomas parle un peu de ça, et le père Benoît, dans son commentaire au traité de la prophétie, a très bien développé tout cela. Enfin, il faut dire un mot des troubles mentaux qui peuvent affecter les serviteurs de Dieu. Alors, bien que Benoît XIV n'en parle guère, mais on peut dire ceci, notre doctrine est celle-ci. Les troubles qui ne mettent pas gravement en cause la capacité d'entendre et de vouloir ne sont pas des obstacles dirimants pour une cause. Il y a des excentricités, des manies, même la scrupulosité, à condition qu'elle soit passagère. Il en va tout autrement quand les facultés de l'intellect et de la volonté ne sont plus en état de fonctionner. La sainteté, comme je l'ai dit au début, implique l'union à Dieu qui se réalise par le moyen de ces deux facultés. Si les facultés ne fonctionnent plus bien, il peut y avoir une sainteté habituelle, mais quoi, enfin, on ne peut pas la vérifier. Pour un motif analogue, on ne voit pas comment on pourrait béatifier ou canoniser, le cas se produit parfois, un serviteur de Dieu souffrant de dissociation ou de dédoublement de la personnalité, parce qu'on ne sait plus quelle personnalité on canonise. Donc, en conclusion, notre souci est de pas directement d'étudier en elle-même les manifestations extraordinaires que j'ai évoquées très brièvement, mais de déterminer leur origine, de déterminer si elles sont naturelles, si elles sont dues à illusion, à supercherie, dérangement mental grave, toute chose qui obligerait à arrêter la cause. Voilà, j'avais fait une petite excursion dans ce domaine.
Canal Academy vous a proposé cette retransmission de ce deuxième colloque intitulé « Les états modifiés de conscience ». Vous avez pu écouter l'intervention du père Daniel Holz, membre de la Congrégation pour la cause des saints. Son propos s'intitulait « Les états modifiés de conscience et la cause des saints ».